Le grand, le divin miracle de la radio nous offre l'opportunité de vous parler à l'antenne.
Ça y est, le contact est établi.
Qui êtes-vous ?
Un instant, je vous prie.
D'accord.
Détendez-vous et répondez aussi simplement que possible.
Votre nom, s'il vous plaît ?
Cinérama.
Je le savais.
Mais attendez, mais qu'est-ce que ça signifie ?
Actualité, cinéma et tout le reste.
Vous imaginez ça ? Vous voyez le tableau ?
Le public va en raffoler.
Bonjour et bienvenue à Cinérama. Nous allons parler des films qui sont sortis alors au moins le 17 juin et avant. Bonjour Marine, bonjour Manu.
Bonjour.
Et la semaine dernière, eh bien, nous avons évoqué un français, film de Diastème, et tu l'as vu ?
Oui, c'est ça. Donc je vais donc vous parler d'un français aujourd'hui. Et puis bah, voilà, je me suis bien amusée. Moi, cette semaine, ça a été Skinhead et Autiste. Donc le deuxième film dont je vais vous parler, ça sera Le Monde de Nathan, un film anglais de Morgan Matthews.
Et puis c'est toi, alors Manu, qui est allé voir, alors non, parce que Marine aussi l'a vu, mais c'est toi qui va le chroniquer, c'est Jurassic World.
Oui, je suis habitué en fait aux grosses machineries hollywoodiennes, mais ça fera une transition vers les films de Corman, puisque c'est deux films de monstres aussi, La créature de la mer hantée et L'attaque des crabes géants.
Je crois que c'est un des plus gros démarrages de Jurassic World. Il se trouve que vous n'êtes pas d'accord, ai-je compris. Donc, eh bien, vous aurez l'occasion d'en parler. Et nous aurons aussi l'occasion de jouer un blind test spécial Grand Monstre qui attaque. Voilà, ce sera 5 extraits à écouter dans l'émission Cinérama. Et puis, nous discuterons aussi eh bien, de Comme un avion, tous les deux, Manu, qu'on a vu ensemble.
Oui, effectivement.
Nous étions proches.
Très proches.
Et nous avons beaucoup apprécié ce film de Bruno Podalides. C'est Cinérama.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama,
c'est un passe-temps surprenant.
Et on commence donc avec un Français. Marc Lopez est un jeune des années 90, un Français, comme le titre l'indique, qui cherche à échapper à sa vie peu trépidante. Son père est malade, sa mère est éteinte, il n'a pas de perspective d'avenir dans sa morne banlieue parisienne. Alors, comme d'autres tombent dans la drogue, il devient skinhead, trouvant sa place dans un groupe dirigé par le charismatique Braguette. C'est son nom. Ensemble, ils sèment la terreur, tabassant les Arabes le jour et collant des affiches la nuit. Mais peu à peu, Marc sent sa haine l'abandonner.
Je ne laisserai personne insulter mon pays. Je ne laisserai personne insulter notre pays. Je ne laisserai personne insulter la France. Il faut que nous, les Français, leur disions que ici, c'est chez nous.
Alors, on a sans doute été trop dur hein, avec ce film avant même qu'il ne sorte, en le jugeant simplement sur son sujet ou sur sa bande-annonce, preuve par ailleurs que le sujet, justement, est toujours sensible. On aura accusé Diastème, le réalisateur, d'être trop bobo pour prendre pareil thème à bras-le-corps, d'avoir voulu faire un American History X à la française. Diastème, selon qui son film dérange et aurait été boycotté par les salles, comme tu en parlais la semaine dernière, Vincent, rendant ainsi le problème d'une exploitation restreinte, non pas commerciale, mais politique. Alors, si le film dérange, justement, ce n'est pas tant par sa grande violence qui est montrée dans sa forme la plus brute, sans complaisance, mais plutôt parce qu'il revient exhumer les racines du mal, entendant bien rappeler d'où vient le FN et anéantir son discours de dédiabolisation. Le film entreprend de tracer le parcours de l'extrême droite française et ses multiples changements de visage en s'appuyant sur des faits réels comme entre autres le meurtre d'un Marocain jeté dans la Seine en marge d'un cortège du FN. C'est également un portrait d'homme complexe, passionnant, mais que l'on aurait souhaité un peu plus étoffé, rendu parfois difficilement abordable par des ellipses trop importantes pour comprendre son cheminement intérieur. Il serait d'ailleurs dommage que les politiques autour du film fassent oublier les excellentes et multiples performances d'acteurs du film. Diastème est un metteur en scène de théâtre à la base. Son précédent film, Le bruit des gens autour, était d'ailleurs un film choral qui se déroulait durant le festival d'Avignon. Et il pallie ici à une forme parfois trop simpliste par une direction d'acteurs exigeante. Alors je ne vais pas citer tous les comédiens parce qu'ils sont tous très bons. Mais il y a entre autres Paul Amy, que l'on avait déjà vu en amont de Catherine Deneuve dans Elle s'en va, ainsi qu'en amont de Sarah Forestier dans Suzanne, et dont chaque apparition bah, ici dans un français est toujours vraiment un grand moment de jeu d'acteur. Et c'est surtout eh bien, Alban Lenoir qui retient notre attention, celui qu'on avait découvert dans un registre beaucoup plus comique, avec Les Gamins ou Goal of the Dead. Il porte véritablement le film avec un jeu sans faille, réellement habité, et réussit vraiment à nous communiquer en fait, la folie et la haine sous-jacente du personnage, tout en le rendant profondément humain, ce qui je pense n'était vraiment pas facile à rendre sur un film aussi complexe. Voilà, donc un Français, bah écoutez, après la polémique, le mieux je pense ça reste de le voir, et c'est loin d'être aussi mauvais que les gens ont voulu le faire croire.
Et pas de surprise sur la coupe de cheveux, hein, j'imagine.
Ah bah il a les cheveux assez rasés, mais après disons que pendant tout le film en fait il a divers coupes de cheveux, une barbe aussi plus ou moins taillée, enfin non vraiment comme ça évolue aussi.
Me dis pas que ça se termine, il est hipster.
Mais pas loin, pas loin, si, si.
Un Français est déjà en salle. Nous allons parler d'un autre film en salle, c'est Jurassic World.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
On va regarder ça.
Alors, tout est une question d'ADN. C'est à peu près la seule question éthique et ou morale posée par Jurassic World, qui n'est absolument pas dupe sur ses intentions initiales. Alors, effrayer le public familial sans déclencher la moindre polémique et en évitant tout effet susceptible de choquer les enfants qui risquent de se ruer en masse vers l'un des succès assurés de l'année. D'ailleurs, le démarrage en fanfare en témoigne. Alors, l'hommage très révérencieux rendu au premier opus, hein, Jurassic Park, est aussi une manière de se la jouer quand même profil bas. L'impossibilité de dépasser le modèle est donnée d'emblée comme une évidence presque masochiste ou cynique, hein, par Steven Spielberg, qui conserve là le statut de producteur. Alors la part du créateur a disparu. La poésie aussi s'est volatilisée, hein, notamment en ce qui concerne les interactions entre les humains et les dinosaures. La très belle séquence de l'œuf de l'original qui éclot est par ailleurs reproduite avec toute l'efficacité et la vulgarité représentative du cinéma contemporain. Mais c'est un peu le projet, conscient ou non, du film. Hein, prélever l'ADN des effets numériques de Jurassic Park, tourné quand même en 93, et le réinjecter 22 ans après dans un produit qui, à défaut d'être original, joue la carte de la surenchère jouissive. Alors même si la morale est toujours la même, hein, jouer à être Dieu à la place de Dieu, c'est mal et les conséquences peuvent être terribles. Alors heureusement pour nous, sinon on s'emmerderait ferme. Alors car les effets spéciaux de Jurassic World sont quand même assez sensationnels, c'est presque le seul intérêt. Hein. Même si la rigueur préhistorique de l'original a complètement disparu. Les mutations génétiques engendrent des espèces qui, là, n'ont jamais existé, apparemment. Bref, des monstres mutants, super agressifs et doués d'une intelligence rare. Enfin, ils ne sont pas à lire du Houellebecq non plus. Hein. C'est qu'on on reste sur le terrain de l'intelligence à l'américaine, c'est-à-dire l'art du camouflage et la capacité d'organiser des stratégies de combat. Enfin,
c'est des militaires, quoi.
Des militaires, voilà, c'est ça. Non, mais c'est l'intelligence à l'américaine. Oui. Hein. Donc, et cette espèce belliqueuse et futée a pour nom l'Indominus Rex, qui évidemment va foutre le bordel au sein du gigantesque parc d'attractions, devenu une sorte de Disney World avec grosses bébêtes en guise de divertissement.
Nous avons plus appris ces 10 dernières années grâce à la génétique qu'en un siècle à déterrer des ossements. Un monde nouveau s'ouvre à nous. Notre tout premier hybride génétiquement modifié est prêt.
Vous avez fabriqué un nouveau dinosaure ? C'est pas une bonne idée.
La palissade fait 12 mètres. Vous croyez qu'elle a pu l'escalader ?
Ça dépend.
De quoi ?
Du genre de dinosaures qu'ils nous ont pondus dans ce labo. Faites évacuer l'île. Elle est d'une intelligence supérieure. Elle va tuer tout ce qui bouge.
Alors, comme je l'indiquais, Steven Spielberg laisse à un autre réalisateur le soin de s'amuser avec les innombrables dinosaures de ce blockbuster efficace et con comme la lune. Alors, auteur d'un premier film intimiste, hein, Safety Not Guaranteed, qui n'est jamais sorti en France, Colin Trevorrow se retrouve derrière cette grosse machinerie. Alors, ce choix surprenant de dépêcher un petit auteur indépendant sur l'un des films les plus attendus de 2015 pouvait laisser espérer un minimum syndical en ce qui concerne le développement des personnages et la conduite du récit. Et il faut bien l'avouer que de ce côté-là, c'est l'indigence la plus totale. En même temps, comme dans 99% des productions hollywoodiennes de ces 5 dernières années, se reposant uniquement sur l'aspect pyrotechnique et graphique des effets spéciaux. Donc, le fameux Indominus Rex, génétiquement modifié, pure création de la scientifique Claire Dering et de ses partenaires, s'échappe et sème la terreur dans le fameux parc d'attractions. Alors heureusement, hein, y a le valeureux dresseur de Raptor, Owen Grady, est là pour rétablir l'ordre, sauver des enfants, conquérir la poufiasse de ses rêves et s'opposer à la folie, enfin pas jusqu'au bout, hein, parce qu'à un moment donné, il s'associe avec, d'un militaire qui voit dans les Raptors de futurs soldats pour mettre fin aux guerres. Bref, tout cela est d'une bêtise rare, mais j'avoue, en termes de spectacle visuel, on prend son pied ou à minima un petit plaisir coupable. Car le réalisateur et son équipe font quand même preuve d'une véritable générosité en termes de divertissement de masse, à l'image de cette séquence quand même excitante où les ptérodactyles et les ptérosaures, cela, ils existent dans le film, s'échappent de la serre pour semer la zizanie au cœur de la foule. C'est un petit clin d'œil d'ailleurs, je pense, aux Dents de la Mer. Alors, le plaisir enfin de voir des civils se faire quand même déchiqueter nous rappelle au fond qu'il ne s'agit là que d'une grosse série B surdimensionnée avec toutes les tares inhérentes au genre, soit une misogynie qui est assumée, un racisme aussi latent, jusque dans la représentation du gentil noir et de l'asiatique fourbe. Il y a presque même un côté, je dirais, colonialiste. Notamment le héros, qui a un côté comme ça, baroudeur, qu'on croirait échapper des fois d'un film des années 50. Alors, mais aussi bon, un script inepte qui accumule les clichés avec une absence de complexe, rappelant avec émotion de fameux nanars comme Carnosaur ou encore Raptor, deux perles produites par Roger Corman à l'époque de Jurassic Park. Alors voilà, on est loin des des films des premiers Spielberg. Mais bon, moi, en tant que spectacle, j'ai pris un petit plaisir, même si je trouve pas ça très très bon.
Donc beau spectacle, mais en revanche, Marine...
Oui, enfin bon, parce que c'est quand même pas censé être une série Z, c'est censé être l'un des films les plus attendus de ces 10 dernières années, et je trouve ça quand même dommage, après avoir vu Mad Max, qui a un divertissement intelligent, de retomber comme ça dans les stéréotypes, mais les plus bas et les plus horribles cinéma d'action.
Mais Mad Max, c'est une exception, ce que je veux dire, c'est
c'est très dommage, je vois pas pourquoi il faut revenir en arrière, vraiment, je trouve ça très très dommage. On a ouvert une porte, là, donc faut quand même qu'on continue sur cette lancée qui était très bonne.
Donc derrière Mad Max, il y a un auteur. Là, on se retrouve face à 95% de ce qui sort aujourd'hui. C'est-à-dire que la série B n'existe plus. Aujourd'hui, toutes les séries B, c'est des séries A avec des gros moyens. Mais ils font exactement la même chose qu'il y a 30 ans. Mais c'était peut-être plus marrant avec des budgets quand même un peu plus faibles.
Ouais, non, et puis bon, enfin, je trouve quand même que il y a des incohérences, mais du début à la fin. Enfin, je pense vraiment qu'on nous prend vraiment pour des cons. Alors ok, le divertissement c'est bien, mais de là comme ça à nous sortir des stéréotypes de longue et en plus à ce que rien ne soit logique, parce que vraiment, enfin, je veux dire, rien n'est absolument logique. Hein, vraiment, c'est incohérent, mais de bout en bout.
Oui.
Enfin, je pense que c'est vraiment prendre le spectateur pour un con. Parce que quand on a un budget tel, c'est quand même dommage de le mettre entièrement dans tout ce qui est effets spéciaux et pas dans des scénaristes dignes de ce nom, quand même, non ?
Je sais pas. Eux, ils ont fait le calcul. Enfin, vu le démarrage qu'il y a,
en même temps, ça marche
très bien.
Ça continue. Autour de moi, enfin, les gens qui l'ont vu, ça plaît quand même pas mal.
Oui. Mais c'est ça, en fait, qui est triste, c'est que les gens sont tellement habitués à voir de la merde que, du coup, ils n'ont même pas de sens critique, en fait. Ce que je trouve un peu dommage.
Il n'y a pas d'attente énorme avec un film comme ça. Voilà. Ils se disent, on va voir des effets spéciaux, des effets visuels impressionnants, et on cherche pas plus loin. Et à la limite, moi, ça m'amuse au second degré, parce que ce que tu dis est vrai. Et comme je peux prendre mon pied à une série Z. Alors c'est vrai que c'est quand même problématique que le cinéma hollywoodien, il en soit arrivé à faire des films quand même un peu complètement idiots même.
Voilà. Donc Jurassic World, c'est actuellement sur les écrans. Vous avez, à mon avis, vous n'êtes pas passé à côté. C'est l'occasion de jouer un blind test spécial grosse bête qui attaque. Alors c'est pas forcément, elles attaquent pas forcément parce qu'on les dérange ou parce qu'on les crée génétiquement. Parfois elles attaquent comme ça spontanément. On va écouter un premier extrait et c'est plutôt facile.
On peut donc croire que ces vapeurs sont provoquées par des gisements de pétrole.
Non, mais c'est une certitude. Le sol de cette île renferme un gigantesque gisement de pétrole qui attend bien tranquillement qu'on vienne le pomper. Je suis prêt à payer tout ce que j'ai.
Alors je vous le fais à 100 contre 1. L'excès de CO2 peut avoir toutes sortes d'origines. Ça peut provenir par exemple d'une respiration animale.
Lumière s'il vous plaît.
Quoi ? Une respiration animale.
Animale ? Vous êtes fou ou quoi ?
Et qui plus est, je ne suis pas sûr que l'homme ne l'ait jamais foulé, votre île. Tiens, peut-être en 1605 déjà, Pero Fernando de Quieros, qui a dérivé vers le sud venant de Tuamutu, il a écrit dans son journal qu'il a percé le rideau blanc. C'est évidemment le nuage de brouillard. Et qu'il a débarqué sur la plage du crâne.
Alors, la plage du crâne, le fameux crâne sur une île. Et il y a une bébête sur cette île qu'on va déranger... C'est King Kong.
Ah oui, c'est vrai.
Avec Jeff Bridges,
c'est
celui de 76.
C'est celui avec Jessica Lange.
Oui, tout à fait. Qui a eu des remakes. Hein, le premier, c'était en 1933. Un autre extrait, alors ça, c'est beaucoup plus récent. On écoute.
Je m'appelle Robert Hawkins. Il est 6h. 6h42 du matin. On est le samedi 23 mai. Il y a maintenant peut-être quoi, 6 ou 7 heures environ, une énorme chose à attaquer la ville. J'ai aucune idée de ce que c'est. Si vous avez trouvé ce caméscope, je veux dire, si vous regardez, c'est que probablement vous en savez plus sur cette chose que moi. Ce que je peux vous dire, c'est qu'elle a tué mon frère. Jason Hawkins et mon pote d'enfance, Hudson Platt, et Marlena Diamond, et puis plein d'autres. Nous, on vient de s'écraser sur Central Park. On s'est réfugiés sous ce pont, juste là. L'armée est en train de larguer des bombes sur la créature, et on est coincés au milieu.
On est presque à la fin. Alors, ça, je ne sais pas si vous, vous avez trouvé, cher auditeur, mais ça a été trouvé. Alors, d'abord, Found Footage de Marine, et puis.
Et puis Cloverfield de Manu.
Voilà, Cloverfield, c'est un film de 2008. Un autre extrait.
Technologie Jaeger, partie des recherches sur le pilotage d'avions de chasse par le système neuronal. Deux pilotes, au cerveau connecté par des souvenirs dans le corps d'une machine géante. Plus profond est le lien, mieux on combat.
Guillermo del Toro aux commandes d'un blockbuster.
Donc c'est Pacific Rim, ouais.
Voilà. Qui se battent, alors c'est les cajous qui attaquent la Terre. Voilà.
Cajous?
Les cajous. Oui, pas comme les noix de cajou.
Voilà, donc ils attaquent la Terre et il faut être donc deux personnes dans une espèce de grand robot. Enfin, moi j'avais trouvé ça là en termes de spectacle aussi hyper intéressant. On va écouter, alors cette fois-ci c'est un son, c'est le son de la bête. On entend la nuit qui vint, les petits grillons. Voilà.
Manu est tellement calé qu'il reconnaît le cri entre mille.
Le cri du Godzilla, parce que faut savoir, mon fils était fan des Godzilla depuis qu'il a 4 ans.
Voilà, ce sera intéressant. Hein, d'ailleurs, j'ai pas eu le temps de le faire, mais je le ferai.
Pas c'est lequel. C'est le dernier.
On sent quand même, en termes de design sonore, que c'est assez pointu.
Non, mais ça aurait pu être celui de Roland Emmerich de 98.
Ah oui, La Purge, oui. Oui. Allez, on termine avec... Alors, là, c'est... Voilà, ça se passe pas sur la Terre.
Quel mystère l'insecte cerveau révélera-t-il ? Les savants fédéraux travaillent jour et nuit pour percer ses secrets. Une fois que nous aurons compris l'insecte, nous le vaincrons à coup sûr. Engagez-vous. Nous avons les vaisseaux. Nous avons les armes. Nous avons besoin de soldats. Des soldats comme le lieutenant Geraldine Fraser.
On survole le secteur désigné, capitaine.
Et le capitaine Carmen Ibanez.
Attention, ici le capitaine qui parle.
Attention pour
des soldats comme le patrouilleur Ace Levy et le lieutenant Johnny Rico.
Dépêchez-vous, bande de chefs bandés, vous voulez vivre pour toujours ?
Nous avons besoin de vous tous. Le service vous garantit la citoyenneté.
On dirait une bande-annonce, mais ce n'en est pas une. C'est la fin du film.
Et c'est donc Starship Trooper. Voilà.
De Paul Verhoeven. Donc, la bataille contre les arachnides. Ainsi s'achève ce blind test.
Si vous aimez les essuie-glaces et les tranquillisants sur pellicule...
Cinérama.
Je suis allergique.
Alors, je pense que ce sont vos...
Les petits moussaillons.
Oui.
Ah, putain ! Sergio ! C'est quoi ta gladiole, là ? Qu'est-ce qu'elle fout, là ?
Le retour de la glaviole, une pièce dont on ne sait quoi, qui est le sujet d'un running gag et qui se retrouve sur le passage dans Liberté Oléron, donc des personnages, un film de Bruno Podalides, Liberté Oléron, et c'est précisément lui qu'on entend dans un rôle qu'il apprécie, celui de patron aux arguments commerciaux. C'était aussi le cas dans Banc Public. Alors comme cela fait plaisir de retrouver son petit Bruno Podalides tous les 2 ou 3 ans, un réalisateur attachant qui se frotte à la comédie, dramatique parfois, mais comédie surtout, et toujours entouré de la même équipe ou quasi. Alors, retrouver Podalides avec Comme un avion fait d'autant plus plaisir que ce film répond à un autre, donc Liberté Oléron. Bref, rappel des caractéristiques de ce personnage de Liberté Oléron. C'est Bruno Podalides qui en parlait à notre micro, c'était en 2009.
Et voilà notre zygomare. Dériveur lesté, bien lesté même. J'en ai pas deux comme ça. Il a son histoire. Un bateau de l'amour.
Tout le défaut là, du coup, de ce gars-là dans Liberté Oléron, c'est qu'il hésite pas 3 secondes. Il est toujours convaincu de l'appel de la mer et je vais me donner les moyens. Il se donne très peu, d'ailleurs, en fait, mais il se croit compétent, il se décrète, c'est la caricature du chef, il devient dictateur. Mais passé cette caricature, j'avais pas trop envie non plus d'en faire un personnage complètement négatif. Je salue en même temps son goût d'entreprendre, de vouloir emmener sa famille. Parce que beaucoup de types aussi sont dans une espèce d'ennui, alors que lui, il a des projets. Déjà, moi, je salue ça. En fait, il se trompe parce que il veut tout le temps mettre en scène sa vie. Et c'est là où il ne se rend pas compte de ça, je crois, le pauvre gars. Quand sa petite famille applaudit parce qu'il vient d'acheter le bateau, il salue comme au théâtre.
Voilà, donc ça c'était le petit rappel parce que ces deux films donc, sont un peu en connexion, mais dans Comme un avion, alors on n'est plus à Oléron mais en banlieue parisienne, les enfants eh bien, ils sont grands et on est avec Michel qui bosse dans ce qui a dû être une start-up il y a quelques années. Ses collègues sont connectés, lui se prend à rêver d'autre chose, la crise de la cinquantaine, l'idée qu'on se représente la vie mais qu'on ne vit pas pour autant, comme lui dit son patron, hein, bar ou bac, ne pensait pas être bac, il travaillait. À être bac. En guise de réponse à la crise, sa voisine lui propose bien une aventure, mais ça n'a pas de sens pour lui. Et c'est par le palindrome, par un mot qu'on prend dans les deux sens et qui n'émerveille personne autour de lui, et bien que lui va aller du mot jusqu'à l'objet et pouvoir décoller ou pagayer à condition d'avoir le matériel.
J'accorde une grande importance au matos.
Et le grand raid ossature bois de Nati Raid, eh bien le comble, ça a l'air d'un beau kayak, faute d'avoir un avion, lui qui aime tant l'aérospatiale. Mais Michel eh bien, peine à partir, alors heureusement il a auprès de lui une femme bienveillante qui sent l'urgence, et le voilà donc parti sur une petite rivière pour un voyage. Darling, you can't love one.
Darling, you can't love one. Bonjour, c'est joli, c'est une buvette?
Oui, le mouton en fait il cherche un endroit où dormir.
Vous pouvez vous mettre au fond du terrain, si vous voulez.
Tu viens de loin avec ton canoë?
Et tu vas où?
Le plus loin possible.
Kayakiste, con.
Hein?
Quoi? Tu m'as entendu, kayak connard?
J'aime bien te laisser porter par le courant.
Le courant, il faut savoir le sentir, l'accompagner.
Il faut savoir se laisser porter.
Alors il vaut mieux ne pas en dire plus et laisser la surprise à quiconque aura envie d'accompagner Michel dans ce doux rêve de descendre une rivière jusqu'à la mer. On va de la crise de la cinquantaine au retour à l'enfance, car son manuel, eh bien, c'est celui des castors juniors. Et on est curieux de savoir comment Michel, bardé de tout son matos, va s'en sortir. Alors il rencontre du monde, hein, des nouveaux d'ailleurs dans son univers, comme Agnès Jaoui ou Vima Laponce. Souvent des gens bienveillants, des joyeux, des boiteux, des fantasques, des larmoyants et même des carrément aigris. Alors on ne sait plus très bien où l'on est, si ces personnages existe, c'est là aussi un des talents de Podalydès, puisque tout est huilé, que le charme opère, que l'écriture comme la mise en scène nous ravit. Alors on se trouve au moins dans l'univers de Bruno Podalydès. Alors c'est sûr, c'est là où la comédie n'est jamais paresseuse, du burlesque au jeu de mots, situation, détail, tout cet univers est vraiment de au vol. On retrouve une partie des comédiens qu'on a toujours vus chez Podalydès, à commencer par son frère, hein, qui jouait dans tous les précédents films le premier rôle. Et cette fois-ci, eh bien, le premier rôle, il se l'est donné. Et c'est plutôt une réussite. Pour les univers cinématographiques, Manu, tu as vu Renoir?
Oui, oui, un petit peu Renoir dans la façon de filmer la nature. Et puis, bon, bah, l'humour, hein, toujours, on est toujours un petit peu du côté de Tati, voire Pierre Etex aussi. Et c'est vrai que Bruno Podalydès, c'est vraiment un cinéaste rare, comme ça, de concocter un humour quand même très subtil. Même quand ça peut paraître lourd, ça glisse.
D'autant que c'est pas une comédie qui est préparée avec un gag toutes les 30 secondes. C'est vraiment quelque chose qui
on est plus dans du comique de situation, hein, oui. Avec beaucoup de références, je pense. Alors je les ai pas toutes, à la bande dessinée, notamment dans la façon de cadrer les situations, le côté très symétrique. Il y a un petit côté case parfois qui est depuis le début, hein, puisque dans Dieu seul me voit, il y avait beaucoup de références à Tintin d'ailleurs.
Voilà, donc on en termine vite avec Comme un avion de Bruno Podalydès. Je crois que c'est salué à peu près unanimement par la critique. C'est une très très bonne comédie à voir dans les salles.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations?
Cinérama.
On va regarder ça.
Et on continue avec Le monde de Nathan. Alors précisons que le titre initial c'était X plus Y. Ça fait un peu moins familial. Et face à ce titre que j'avais un peu l'impression d'avoir déjà lu 100 fois, j'étais faire une petite recherche. Je ne sais pas si vous savez le nombre de films en français dont le titre commence par « Le monde 2 ». Il y a « Le monde de Narnia », « Le monde de Charlie », « Le monde de Ralph », « Le monde du silence », « Le monde de Nemo », « Le monde de Barney », « Le monde de Marty », « Le monde de Fred », « Le monde de Suzy Wong ». Et c'est pas fini. Alors, je ne sais pas comment ils font tous pour avoir un monde à eux. Mais voilà, c'était juste pour illustrer donc, le manque d'imagination des traductions françaises, parce qu'il n'y en a pas un seul en fait, qui soit un titre original. Ce n'est que des traductions françaises. Donc, Nathan, donc, est un jeune autiste extrêmement doué pour les mathématiques, mais incapable de communiquer avec son entourage, y compris sa mère. Effrayé par les gens, il attire tout de même l'attention d'un prof de son collège, lui aussi marginalisé à cause d'une grave maladie. Et ensemble, ils décident de préparer les prestigieuses Olympiades de mathématiques.
J'ai beaucoup de mal à entrer en contact avec les autres.
Le test est positif. Nathan présente des troubles autistiques. Mais c'est un jeune homme unique.
Comme je ne parle pas beaucoup, les gens pensent que je n'ai rien à dire. Mais ce n'est pas vrai. J'ai énormément de choses à dire.
Ça roule ?
Qu'est-ce qui roule ?
Tu as gagné avec succès ta place dans l'équipe de maths du Royaume-Uni.
C'est fantastique.
Vous faites partie des 16 jeunes cerveaux les plus intelligents de ce pays. Et vous êtes beaucoup trop nombreux. Il n'y a de la place que pour 6 d'entre vous. Voici nos véritables adversaires, les Chinois.
Ravi de te connaître. Je m'appelle Zhang Mei.
Je suis le prof de Nathan depuis 7 ans. Ce gamin est très sensible. J'essaierai de te filer les réponses.
C'est de la triche.
Tu as vraiment cru.
Crois-moi, tu feras de grandes choses plus tard. Espèce de petit con, va.
Alors le thème du génie, bon bah, est loin d'être nouveau hein, au cinéma, il est même assez revu et je dois avouer que je suis vraiment allée voir ce film à reculons. Alors et heureusement que ce film n'est pas américain, c'est ce que je n'ai eu de cesse de me répéter devant le monde de Nathan. En effet, il s'agit d'un film anglais réalisé par un certain Morgan Matthews qui nous vient à la base du documentaire. Et on ne peut qu'être soulagé en imaginant à quel point la Weinstein Company en aurait fait un mélo dégoulinant taillé pour les Oscars. Finalement, le sujet de l'autisme est délicatement abordé et surtout, les clichés du film de maladie sont soigneusement évités. On retrouve les mêmes acteurs hein, que l'on croise dans à peu près tous les films anglais, à savoir Sally Hawkins et Eddie Marsan, ainsi que Asa Butterfield dans le rôle du jeune autiste qu'on avait découvert dans Hugo Cabret de Scorsese. On évite donc les clichés, certes, mais pas les facilités. S'il n'y a rien à jeter dans le monde de Nathan, il n'y a aucune fulgurance de mise en scène à relever non plus, le tout étant d'un académisme sage qui sert son sujet sans le transcender. Voilà, c'est un joli film sans plus, hein, dont on peut se passer, mais qui est loin d'être une purge, pour reprendre tes termes.
Je ne me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
Alors dans les années 50, hein, Corman produisait et réalisait des films à la chaîne, souvent distribués en salle en double programme. Donc c'était pour ça que je devais en traiter deux, L'attaque des crabes géants et La créature de la mer hantée. Donc je vais en parler seulement d'un des deux films. Allez, au pif, je prends L'attaque des crabes géants. Alors après les dinosaures, les fourmis, les araignées, les singes et j'en passe, c'est au tour des crabes de combler ce manque cruel dans l'industrie cinématographique avec L'attaque des crabes géants. Alors l'apparition de ces splendides crustacés est un bonheur inouï qui suffirait à réchauffer le cœur des amateurs de bestioles insolites en manque de sensations fortes. J'exagère un peu, mais la première apparition de ces crabes au fond de l'océan, seulement au bout de 5 minutes de film, mérite franchement le détour. Munis de leurs pinces géantes en carton, c'est vraiment en carton, hein. Ces monstres si charmants attaquent un groupe de scientifiques afin d'absorber leurs connaissances profondes. Bon, très profondes, hein, vu que c'est des scientifiques et qu'ils sont au fond de la mer. Et oui, ces crabes, résultat d'expériences nucléaires effectuées par de vilains messieurs, sont dotés d'une intelligence supérieure. Ils sont télépathes, voire même hypnotiseurs, et n'ont aucun mal à attirer dans leur tanière nos pourtant brillants groupes de chercheurs. Alors il y a même une femme chercheuse, ce qui est super originale dans les années 50, puisqu'elle est vraiment un télo, c'est pas la quiche du tout de service. Et c'est assez, c'est typique de Corman, hein, qui aimait bien mettre des personnages féminins forts dans ses films. Bon, même s'il aimait bien aussi les déshabiller.
Un mec bien.
Alors, failli penser aux crabes intello, hein, opportunisme et bourré d'idées plus saugrenues les unes que les autres, l'attaque des crabes géants confirme en tout cas le talent de conteur de Corman. Il s'est mené un récit sans temps mort et ne se perd jamais en digressions inutiles. Alors, faut dire, le film est mouché en une heure. Alors, dès les premières images, tout est en place. Le délire peut commencer en toute quiétude. Alors, bien des réalisateurs, pour moi, devraient en prendre un peu de la graine. C'est-à-dire qu'en une heure, ben, on a une série B qui est parfaitement correcte et on peut enchaîner une deuxième. Ce qui n'est pas le cas avec les grosses productions aujourd'hui où ça dure 2h45.
Oui, moi, ça dépend. Hein. Jurassic World, c'est le cas.
2h05.
Et Mad Max, c'était
2h.
Voilà, 2h. Hein. C'est plus dans les 2h, je crois, que 2h30. Ou... C'est peut-être Nolan qui va un peu
c'est vrai.
De ce côté-là. Avec ses Batman.
Pacific Rim, je crois que ça durait 2h20, 2h30. Hein.
Possible, oui. Mais c'est une bataille longue à mener.
C'est l'or. Il est l'or.
Il n'y en a pas pour longtemps. Bien, ouvre tes oreilles.
Sors de ta connerie, sacré pendu ! Sinon, moi, je te dévisse la tête et je te chie dans le cou !
Ça doit être une erreur dans l'enchaînement des flashbacks. Ça devrait pas trop durer.
Voilà, ainsi s'achève Cinérama. Vous avez déjà vos films pour la semaine prochaine, tant mieux.
Oui, moi je vais vous parler d'un film turc qui s'appelle Mustang, qui était passé à Cannes, ainsi que de La Résistance de l'air, un polar français avec Reda Kateb.
Et moi je vous parlerai donc de la bataille de la montagne du Tigre et d'un film expérimental, The Duke of Burgundy.
Bon cinéma.
Cinérama.
Il n'y a que des combines, il n'y a pas de héros, rien que des combines. Il n'y a pas de gagneurs, rien que des combines et de la merde. Il n'y a pas de saint, il n'y a pas de génie, rien que des combines et des contes de fées, ça fait durer la partie.
Sur Divergence FM. Divergence.